On n'aura pas fini aujourd'hui. C'est Matthieu 13, ces paraboles. Vous avez l'habitude d'entendre les paraboles de Matthieu 13 comme des paraboles. Mon chéri.
Bonjour.
Ça aussi. J'espère qu'il servira le Seigneur. Alors, d'abord, pour rien de clé dans toutes ces paraboles-là, il faut savoir que au chapitre 13, verset 11, jusqu'au verset 17, il y a un texte extrêmement important. Jésus leur répondit, j'attaque sur ça, parce que c'est comme si vous voulez, c'est la clé pour comprendre les paraboles, c'est pour comprendre la situation. Comment ça se fait que les personnes qui ont entendu les paraboles de Jésus ne comprenaient pas, même les apôtres, ils ont compris plus tard, et que, pourquoi ? Jésus leur répondit, et donc les disciples au verset 10 disaient ceci, pourquoi leur parles-tu en paraboles ? Mais ils sont gentils, hein, mais ils sont acquia aussi, il ne faut pas croire que c'était des grands génies. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Pour connaître les réalités du royaume des cieux qui vont se dévoiler à eux, il leur faudra toute leur vie, hein. Et encore maintenant se dévoile. C'est un petit peu comme les prophètes dans l'Ancien Testament qui ont dit des choses, ils en ont compris certaines parties, et puis il y en a encore des choses pour aujourd'hui. Hein? Et donc, car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, en entendant, ils n'entendent point, ils ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles, vous ne comprendrez point, vous regarderez de vos yeux, vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient, de leurs yeux qu'ils n'entendent, de leurs oreilles qu'ils ne comprennent, de leur cœur qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Les amis, hein, les amis, mais heureux sont vos yeux, j'espère que c'est votre cas, parce qu'ils voient, vos oreilles parce qu'ils entendent, je vous le dis, en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, ils ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, ils n'ont pas entendu. Ce texte-là, quand vous regardez bien, au verset 16, ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux. Ésaïe 6, regardez bien. Si on loupe ça, on ne peut pas imaginer le problème qui repose pour l'intelligence spirituelle des Écritures et des paraboles. L'intelligence spirituelle pour comprendre la parole de Dieu est un don de Dieu. Mais Dieu peut fermer des cœurs, fermer des oreilles, pour que quelqu'un n'ait pas l'intelligence pour les comprendre. Posez-vous la question, Seigneur, ai-je reçu de ton Saint-Esprit l'intelligence pour comprendre ta parole? Ou est-ce que je suis en train de la lire? Et puis je suis là, je tourne en rond. Je vous le dis personnellement, j'ai lu le Nouveau Testament à 16 ans. Des choses m'ont touché, encore toute ma vie, jusqu'à l'âge de 42 ans. J'ai fait tout ce que j'ai pu en étant catholique pour amener des gens au Seigneur. J'aimais le Seigneur. J'ai dû tirer un bilan que je n'avais amené personne à la nouvelle naissance et si je mourais, il n'y avait personne qui pouvait continuer à annoncer l'Évangile. J'ai confessé à Jésus que j'avais perdu 26 ans de ma vie à croire en lui sans avoir la puissance spirituelle d'amener quelqu'un à la vie nouvelle, à la régénération dans le Saint-Esprit et à la connaissance de la parole. 26 ans au bac. L'humiliation que Dieu peut permettre peut être la même pour vous. Ça peut être 50 ans, ça peut être 2 jours. Je ne connais pas le programme de Dieu pour chacun de vous. Faites attention. Et quand j'étais à l'Institut, la première année était pénible, la deuxième année était pénible, la troisième année, je devais travailler en même temps. Je rentrais, je devais travailler. Je dormais 3 heures et demie, pas plus, pendant 3 ans. Un peu le week-end, mais il fallait se relever pour les enfants. Donc pour finir, c'était 5-6 heures en morceaux. Dieu m'a donné une santé incroyable pour le faire. Mais ce qu'il y a, c'est que quand j'étais dans la Bible de 10h du soir à 3h moins quart du matin, pour étudier, pour faire mes examens, faire les travaux, n'imaginez pas ce qu'on nous met sur le rable. Mais bien pratiquement, il y avait quand même longtemps que je n'avais pas été à l'école. Et pratiquement, je trouvais la troisième année plein de lumière sur la parole. C'est comme si le Seigneur m'expliquait, et j'ai dit merci Seigneur, après autant d'années Seigneur, après autant d'années Seigneur, voilà que tu me montres ce que ça veut dire. Eh bien je vais vous dire, c'est encore la même chose maintenant. Nous sommes toujours en route et l'intelligence doit être renouvelée sans cesse. Il y a toujours des lumières qui sont données en plus sur sa parole. Nous n'avons pas, et ça c'est pour éviter l'orgueil, de capacité humaine pour comprendre sa parole, elle est divine. Les mystères de sa parole, c'est-à-dire cette réalité et son sens, nous est dévoilé au fur et à mesure de notre foi, de notre obéissance, de notre consécration à Dieu, de nous laisser conduire par lui. Retenez bien ça. Alors, dans Ésaïe, c'est extrêmement capital. Une église qui ne comprend pas ça n'est nulle part. Nous ne pouvons pas être charnels. Nous devons devenir des êtres spirituels avec une intelligence renouvelée. Nous ne sommes pas appelés à nous conformer au monde. Nous sommes appelés à nous conformer à la vie de l'Esprit Saint. Romains chapitre 12. Alors, Ésaïe 6, eh bien, quand notre brave Ésaïe est en train de prier et d'offrir les parfums, les sacrifices dans le temple, tout d'un coup, le Seigneur, le Christ, lui apparaît. Et évidemment, je ne vais pas lire ça de chapitre 6, verset 1 à 7, lisez-le, vous prenez ça aujourd'hui, prenez le temps de le lire, mais voilà, la voix que Dieu a dit, verset 8, « J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je qui marchera pour nous ?» Pour nous, pourtant c'est un seul Dieu. Comprenez bien, le Père, Fils et l'Esprit Saint, mais dans l'Ancien Testament, les Juifs comprennent rien. Mais nous, on peut comprendre. Alors, je répondis, « Mais voici, envoie-moi. » Vous voyez la bonne volonté de cet homme ? Il a été sous quatre droits. Hein. Il y en a deux qui étaient braves, qui aimaient Dieu, deux des tordus à l'os. Et il est toujours resté constant et fidèle. Alors, pourquoi pas nous ? Envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez, vous ne comprendrez point, vous verrez, vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles, bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point, ne soit point guéri. Je dis, jusqu'à quand, Seigneur ? Donc, ici, quand Ésaïe va venir leur parler, il y a du béton qui va tomber, si bien qu'ils vont, quand ils vont crucifier Jésus au Golgotha, ils vont penser que c'est un ennemi du temple, un ennemi de Moïse, ils vont considérer comme un fils de Satan. Pensez bien que dans le désert, quand il y a le bois avec le serpent des reins, cela représente le Christ considéré comme Satan. Le serpent des reins représente Satan, et dans les Juifs, vous considérez celui que je vous enverrai, votre Messie, comme un Satan, vous le clouerez sur le bois, déjà au moment de Moïse, et c'est arrivé au Golgotha. Cet aveuglement sur le peuple juif n'est pas exceptionnel. Il y a ici, dans nos contrées, autant d'aveuglement. Mais eux avaient les prophètes. Eux avaient tous les prophètes. Ils ont eu des grands prophètes et ceux qu'on appelle les petits prophètes. Je ne pense pas qu'il y en a des petits, mais enfin, pour nous, avec le temps, on considère qu'il y a les grands et les petits. Et pratiquement, ils ont méprisé les prophètes, ils ont méprisé tous ceux qui aimaient Dieu, qui avaient un cœur humble et qui aimaient Dieu. Tout quiconque aimait Dieu était l'objet de ricaneries, etc. Ricanement, excusez-moi, de sarcasme, et c'est encore aujourd'hui. Ne vous étonnez pas. Les pauvres de Dieu, ceux qui ont un cœur attaché à Dieu, sont l'objet de moqueries. Hein? Psaume 1, ne t'assieds pas au banc de mon cœur et des railleurs. Yavol, vous avez compris que ce n'est pas neuf sous le soleil. Et vous voyez dans le psaume 2, brisons nos liens. pas de question de parole, pas de question de Dieu. Brisons nos liens. Dieu est mort pour nous, comme Nietzsche. Hein? Eh bien, pratiquement, c'est vieux comme le monde. C'est une tendance née du péché. C'est une haine de Dieu, une haine de sa parole, qui a fait que beaucoup de prophètes sont morts. Et qui a fait que Dieu s'est fâché et il a décidé de boucher les oreilles et les yeux. À tous ceux-là qui avaient joué avec lui depuis si longtemps. Depuis si longtemps. Donc quand nous sommes dans Matthieu 13, nous sommes dans la suite de ce peuple au cœur dur, à la nuque raide, au cœur incirconcis. Déjà dans Deutéronome, dans beaucoup de textes, Moïse avait dit dans Deutéronome, circoncisez vos cœurs. Hein? Et donc pratiquement, vous avez ici un élément de base, on ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Si on n'a pas un réel amour de Dieu, une réelle repentance, une réelle humilité, Dieu ne nous permet pas de le comprendre, ne nous permet pas de l'entendre et de le voir à travers même des signes grandioses dans la nature ou dans des prédications, etc. C'est pour ça que Paul dit, priez pour que j'ose annoncer hardiment l'évangile et que des portes s'ouvrent, parce que je suis ambassadeur de Christ, des portes s'ouvrent, parce qu'il sait qu'il faut que Dieu ouvre les portes et que c'est par l'intercession des églises que des portes s'ouvrent. Il est nécessaire dans notre église de prendre du temps, tout le monde, chez soi, pour intercéder, pour prier et se réunir pour prier. Beaucoup plus, on doit avancer beaucoup plus ensemble. Il n'y a rien à faire. Quand tout le monde sera baptisé, tout le monde qui a plus de personnes membres, les vrais membres sont ceux qui sont des intercesseurs, qui prennent le temps de prier. Il faudra, dans notre vie, chacun de nous, sabrer les choses pour laisser du temps à l'intercession et à la prière. À ce moment-là, nos yeux s'ouvriront, nos oreilles entendront. Comprenez-vous? C'est, il n'y a pas, Dieu ne donne pas la perle au pourceau. Jésus l'a dit. Donc, les paraboles vont être données à des gens qui sont sous un obscurantisme spirituel que Dieu autorise, que Dieu laisse jusqu'au camp. Vous avez vu Isaïe, jusqu'à quand? Isaïe, il aime son peuple. Il sait que Dieu ne déteste pas Israël. Bien, vous lisez 11.35, Romains 11.35, jusqu'au moment où l'évangile a touché toute la totalité des païens, à ce moment-là, ils sont greffés de nouveau. Les promesses faites à Abraham, Isaac, Jacob sont des promesses irrévocables. Les dons de Dieu sont irrévocables. Alors, s'ouvre. Mais moi, ce que j'ai vu en 2008, avec Gemal, quand j'ai vu tous ces gens-là venir dans ce petit endroit-là, depuis 2005, chercher 110 000 personnes, 100 à 110 000, chercher des Bibles avec le Nouveau Testament, dans toutes les langues du monde. Des gens qui sont revenus de partout, et pourquoi est-ce qu'il y a de l'antisémitisme en France? Pourquoi est-ce qu'il y a des tombes profanées? Mais parce que Dieu veut les repousser vers sa terre. Et, retour là-bas. Retour là-bas. Pourquoi? Psaume 118, pour accueillir Jésus. Psaume 118, vous le lisez. Lisez-le, vous verrez. Quand le figuier reverdit. Moi, je pense qu'il reverdit à tout cas. Il reverdit, vraiment. Parce qu'il y a autant de gens, juifs laïcs, qui vont chercher un Nouveau Testament. Et il y a quelque chose que ni la télévision ni la radio ne diront, parce que le diable ne veut pas qu'on sache. La conversion d'Israël est largement en cours. Et que Jésus est bientôt là. Quand ils vont descendre, poussés par le Saint-Esprit à Jérusalem, tous vont descendre. Ils seront 2-3 millions. Il n'y a rien à faire. Les Lubavitch et les messieurs avec les grands trucs ou les chapeaux et les crocs ne pourront pas les arrêter. Et pratiquement, ils vont chanter le psaume 118. Croyez-vous que Jésus va tourner le dos en disant « c'est pas encore l'heure ?» Non, il a dit que c'est quand son peuple lui dirait ça. Donc le retour de Jésus. Il suffit que le Saint-Esprit les pousse, se mobilise à aller à Jérusalem. Ça peut être demain, ça peut être dans un an, dans 6 mois. Et nous, qui sommes-nous quand Jésus revient? Nous sommes enlevés avec lui sur les nuées ou nous restons dans le carnage de l'Antichrist? Donc, il faut bien savoir que les paraboles ici ont une portée eschatologique, ont une réalité historique. Alors, je prendrai aujourd'hui la première parabole et la deuxième. Très rapidement, quelle heure est-il?
Midi moins 10.
Donc, auf Wiedersehen. Nadine, est-ce que si vous voulez qu'on se réunisse pour les baptêmes?
Oui.
Attention, hein.
Moi, je suis libre lundi, mais André ne sera pas là.
Mardi.
Mardi, c'est bon.
Mardi après-midi?
Mardi après-midi.
Bon, ça va?
À la maison, si vous voulez.
2h15, 2h30? Oui.
Il n'y a pas de souci.
Ça va? Allez. Merci beaucoup. Donc, nous avons encore midi moins 10, midi 5, un quart d'heure. Prenons les paraboles. Matthieu 13. Vous connaissez cette parabole-là? Vous êtes né dans la Bible, hein? Depuis que vous êtes petit, vous l'entendez, hein? Vous allez dans les églises, alors... Chapitre 13, verset 4. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain, 100, un autre 60, un autre 30, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Quand vous imaginez que Jésus dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, alors que le décret de Dieu en Ésaïe 6 est toujours d'actualité, c'est parce que Jésus... Mais s'il vous plaît, il faut faire attention à ça. Jésus a l'autorité de la part de son Père d'ouvrir des oreilles à quelqu'un, d'ouvrir des yeux à quelqu'un. Seul lui, Jésus, a l'autorité de rendre un aveugle voyant, un sourd entendant, un boiteux marchant. C'est ça la bonne nouvelle. Mais le décret est durable jusqu'au moment où tous les l'évangile est annoncé dans toutes les nations et que, après, Israël est greffé. Romains 11, 35. Donc, chaque fois que Jésus rencontre quelqu'un, c'est lui qui a l'autorité d'ouvrir l'oreille du cœur, les yeux du cœur. Et lisez bien Éphésiens 1, que l'esprit de gloire illumine les yeux de votre cœur. Chaque fois, la vision spirituelle, la compréhension spirituelle est un don de Christ. Seulement la personne de Christ, hein, pas un prédicateur, pas une institution ecclésiale, pas l'eau du baptême, pas l'imposition des mains. Seulement la personne de Christ. Alors, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, ils sont devant Christ. Est-ce qu'ils vont dans leur cœur? Imaginez ça. Imaginez, c'est aujourd'hui la même chose. Est-ce qu'ils vont dire, Seigneur Jésus, ouvre mon cœur. Débouche mes oreilles, fais tomber les écailles de mes yeux. Celui qui supplie, celui qui de fond de son cœur parle à Jésus, qui demande pardon pour ses péchés, qui reçoit le pardon de ses péchés de Jésus, reçoit ce don de l'ouverture à la grâce. C'est Jésus qui ouvre les portes à la grâce. Et ce qui est très important, c'est que du temps de Jésus, quand il était là, c'était possible. Alors, quand un prédicateur va quelque part et prêche, si réellement le Seigneur Jésus est là, c'est pas dit chaque fois, hein, parce qu'il y a beaucoup de magouilles dans tout le système ecclésiastique, et puis le tapage à propos de certains prédicateurs est très mauvais. Si Ruben Sayens, Saint Jean du Gard, qui circule de ferme en ferme, de village en village, de communauté en communauté, et qui a ouvert des yeux, non, il n'a pas ouvert des yeux, Jésus est avec lui, il y a des yeux qui ont été ouverts par Jésus, des oreilles qui ont été ouvertes. Et tous les chants que vous regardez dans les yeux de la foi, les Rubens de Sayens, si vous les analysez bien, c'est selon la grâce de Christ. Ce n'est pas Rubens de Sayens qui fait le thaumaturge et qui leur met le 100 000 volts et ils sont tous devenus chrétiens. Alors, c'est clair qu'un serviteur de Dieu qui est derrière Jésus-Christ, qui annonce sa parole fidèlement, qui n'ajoute rien, retranche rien, si le Seigneur lui demande d'aller à telle place et qu'il va prêcher, c'est le Christ qui va ouvrir des yeux et des oreilles. Pas le prédicateur, même s'il est plus beau que Johnny Hallyday ou Elvis Presley. Même s'il chante mieux qu'un perroquet, ou que Dalila, ou que Edith Piaf. Non, c'est Jésus qui a le don de donner les yeux et les oreilles de l'intelligence nouvelle. Alors, ça, vous devez savoir, à qui est-ce que cette parole va être donnée ? À des terrains qui n'en veulent pas, des terrains superficiels. Hein, le chemin, le buisson d'épines, à des terrains superficiels qui ne s'inclinent pas devant, qui ne demandent pas la grâce. Ils s'y refusent. Ils entendent, oui, ça fait bien. Oh, je suis content, il a bien prêché, si et ça, tout le bazar. Oh, Jésus de Nazareth est sympa, il guérit des malades. Oh oui, hein. Il aime les pauvres, il nous aime. Hein. Ah oui. Si avec ça. Et Bouddha aussi, hein. Et tous les autres, hein. Alors, ce qu'il y a, c'est pas ça. Le Fils de Dieu a le pouvoir de mettre en communication un être humain avec la vie divine, avec son Père des cieux. Voilà. C'est ça qu'il faut savoir. Comment ? Comment ? Par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. La semence, c'est la parole de Dieu. Où est-ce que je vois ça ? Bien, regardez. Un peu plus loin, verset 23, qu'est-ce qu'il est mis ?
Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30.
Et donc, c'est la parole de Christ qui donne, qui sort de la bouche de Christ, qui donne l'Esprit Saint. Et dans Galates, clairement, Paul insiste. Pour que l'Église ne soit pas sous la loi des nouveaux dérèglements, des culpabilités, il insiste, allez voir dans Galates, il insiste que la parole, c'est elle, la parole de Christ, qui donne, c'est au chapitre 2 de Galates. Faites bien attention à ces choses-là, elles sont très importantes. Il ne faut pas être fragile aujourd'hui, il faut essayer de se fortifier dans la parole. C'est trop dangereux de rester fragile, de rester, ne pas avancer. Galates, chapitre 3. C'est trop dangereux de rester fragile aujourd'hui. Clairement, il faut se fortifier en Christ et par sa parole. Ô Galates, dépourvu de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié ? On peut dire ça encore aujourd'hui. Dans beaucoup de chrétiens, même évangéliques. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Regardez comme il est radical. Il n'est pas méchant, il est radical. Est-ce par les œuvres de la loi, donc l'observance, les actions de la loi, que vous avez reçu l'Esprit Saint, ou par la prédication de la foi ? Êtes-vous tellement dépourvu de sens ? Vous êtes venu à ce point-là qu'en appliquant des règlements judaïques et tout ça, vous pensez que vous avez reçu l'Esprit Saint ? Hein ? Alors, après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair ? Sarx, l'humain. Avez-vous tant souffert en vain ? Ils ont été persécutés, si toutefois c'est en vain. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi ? Celui qui vous accorde l'Esprit, il agit par la prédication de la foi. Un prédicateur qui a la foi en Christ, qui vit de Christ, qui a craint Christ, qui l'aime, qui vit par la foi, peut parler. La parole de Christ va toucher des cœurs et donner l'Esprit Saint. Mes amis, franchement, ce que j'ai vécu là pendant 15 jours, je suis parti sans un rond. la foi, je savais, je devais y aller. Je suis revenu par la foi. Et il y a des gens qui ont été touchés. Quand j'étais au Bénin, c'est encore pire là. Mais pratiquement, quiconque, et je supplie le Seigneur qu'il y en ait beaucoup dans notre Église, qu'on apprenne à marcher par la foi, la vie est beaucoup plus belle quand on est dirigé dans son chemin par le Seigneur et en étant derrière lui. C'est très difficile, évidemment. Il faut un combat contre nous-mêmes. Romains chapitre 1. Ce n'est qu'un début aujourd'hui. Ce n'est qu'un début, parce qu'on verra, le chapitre 13, c'est une mine d'or qui couvre tous les siècles, figurez-vous. Romains 1, versets 15 et 16. Je n'ai point honte de l'évangile. Pensez bien que toute sa famille, tout le monde l'a rejeté, hein, son peuple. Hein. Imaginez, ce n'est pas du verbiage hein, ce qu'il dit. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Romains 1, 15. Donc l'évangile, donc Jésus, mort et ressuscité pour mes péchés selon les Écritures, c'est ça l'évangile.
Comment on fait ?
Eh bien, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Qu'est-ce qui est révélé pour celui qui croit ? C'est ça que je vous disais tout à l'heure. Il échappe à cette sanction qui est venue dans Ésaïe 6. Quand il ose croire en Christ et qu'il accepte le sacrifice de Jésus à la croix, qu'il a payé, Jésus a payé pour moi, pour mes péchés, qu'est-ce qu'il fait ? Il y a une révélation de la justice de Dieu, une révélation de mon pardon dans mon cœur. Une révélation de mon pardon, révélation de la justice. Le Dieu de l'éternité, d'Israël, des prophètes, me donne son Saint-Esprit et me fait enfant de Dieu. C'est ça la justice de Dieu. Par la foi. Alors, le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélé, la révélation se fait en nous. C'est pas du baratin ce verset-là. La justice de Dieu par la foi, pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc, celui qui est pardonné ses péchés, grâce à l'agneau sacrifié, grâce à l'agneau ressuscité, il vit par la foi, c'est-à-dire, simplement, il s'attache à Jésus. Il s'attache à Jésus. Et il vit. S'il ne s'attache pas, il a entendu, il ne vit pas encore. Il y en a qui entendent l'évangile, on peut leur prêcher 2000 fois, ils n'en vivent pas encore. C'est pour ça que même dans une église, on peut avoir des chrétiens charnels et des chrétiens spirituels. On peut avoir du blé livré. On peut avoir des fils de la résurrection et des fils du malin. C'est très dur tout ce qui est dit dans les paraboles de Matthieu 13. C'est pas que je veux condamner quelqu'un. Simplement, moi j'ai une chose, une passion, c'est que tout le monde soit enfant de Dieu ici dans notre église et que d'autres s'y adjoignent et qu'on fasse un bon travail pour le Seigneur. Par la foi et pour la foi. Donc l'évangile, puissance de Dieu. Alors, Jean 12, verset 24. On va falloir arrêter, évidemment. Jean 12, verset 24. Jean 12, verset 24. en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. La parole de Jésus en moi, la parole de Jésus, ce grain de blé qui meurt, c'est Jésus sur la croix. Parce que Jésus est la parole de Dieu incarné. La mort de Jésus rentre en moi. Ensuite, sa résurrection. Ensuite, sa résurrection rentre en moi. Il faut faire attention, les versets ont une portée incommensurable. le grain de blé, s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est Christ qui est mort. Et au moment sur la croix, il me connaissait. Je n'étais pas encore né, il me connaissait. Il est mort. Et il porte en moi du fruit. Versets 31 et 32. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Et évidemment, je suis, quand je suis touché par la parole de Dieu, que Jésus rentre en moi, que sa mort et sa résurrection sont ma vie. Le monde est jugé en moi. Tout ce que j'ai fait, tout ce à quoi j'adhère, tout ce qui me touche à la télévision et tout ça, ça doit mourir. Toutes les tentations, toutes les convoitises, ça doit mourir. Il y a un jugement sur tout ça. Et ma vie chrétienne, c'est Christ en moi, crucifié et ressuscité. Rappelez-vous ce que Paul voulait pour l'église aux Corinthiens. Je ne veux savoir parmi vous que Christ crucifié. Parce qu'ils comptaient tous sur le baptême. J'ai dit, tu m'as baptisé, j'ai dit, ketchup. Ça y est, le baptême commençait déjà à devenir un talisman, une espèce de breloque, une comédie de baptême. Le prince de ce monde sera jeté dehors. Il est jeté dehors. De où? De chez Charlie, là-bas? Du Bataclan? Le prince de ce monde est jeté hors de ma vie. Il n'a plus de pouvoir sur moi. Les portes de l'enfer ne prévalent pas sur moi. Jean, Matthieu, chapitre 16, verset 16. Dans l'église, les portes de l'enfer ne prévalent pas sur ma vie. J'appartiens au vivant, au ressuscité. Je suis fils de la résurrection. Luc 21. Ai-je conscience de ce trésor si important que Jésus m'a donné? C'est sa personne même qui m'a été donnée dans sa mort et sa résurrection par le Père des cieux. C'est mon Messie. Matthias, Thomas l'a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Vous savez que quand les chrétiens anglais et français, tout ça, sont arrivés au sud de l'Inde, il y avait des églises de Thomas. Et pourtant, Thomas là-bas, il a découvert des morceaux. Il y avait des églises de Thomas là-bas. Celui-là qui a douté, il a dit « Mon Seigneur, mon Dieu ». Après, il était avec son Seigneur et son Dieu, Jésus, le Fils de Dieu. Luc 20. Verset 36. Ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges. Ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Parce que nous sommes fils de la résurrection, nous sommes déclarés fils de Dieu. Luc 20, verset 36. Et lisez tout le Matthieu 13, vous allez voir que la parabole de l'ivraie. La parabole du blé est livrée à côté dans le même champ. Vous allez voir que cette fois-ci, la semence, c'est pas la parole. C'est pas la même chose. Chaque parabole a une spécificité. C'est le chrétien habité de Christ. Vous allez voir ça, lisez. Donc, si j'ai reçu la semence dans mon cœur, c'est pour ça que j'ai insisté aujourd'hui sur certaines choses. C'est parce qu'après, Christ en moi, je suis la semence et je t'ai dans le monde. Fils de résurrection, je suis une semence pour le monde. Parce que la semence en moi a été accueillie, elle a été plantée, elle porte du fruit. Est-ce que vous comprenez la dynamique? On reviendra à tout ça, Matthieu, la fois prochaine. Que Dieu nous bénisse, nous accorde la paix et la joie. Il faut beaucoup de joie dans notre Église pour dire merci au Seigneur de tout ça. Il faut beaucoup. Et il faut prier plus. Il faut que tout le monde desserre ses lèvres et prie beaucoup. Il faut desserrer nos lèvres. Il faut prier, il faut louer. Il faut laisser aller notre cœur débordé par le Saint-Esprit. S'il vous plaît, j'étais à Saint-Jean-du-Gard. Il y avait deux personnes qui ont prié et moi la troisième. Et toute l'assemblée est là. C'est une église du 18e siècle. Ruben Sayen s'est né et a grandi. Pourquoi est-ce que les portes là sont fermées? Attention ici. Attention ici. Rendons grâce à Dieu tous ensemble. Pas toujours les mêmes. Père chéri, Père du ciel et de la terre, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu en toutes choses pour l'œuvre merveilleuse que tu fais dans nos vies, pour la bonne semence de ta parole déposée en nous, pour Jésus, mort et ressuscité en nous. Seigneur, que nous portions du fruit, et le premier fruit, c'est la louange, l'adoration, l'action de grâce. Le deuxième, Seigneur, c'est que nous donnions notre vie pour toi dans ce monde. Nous soyons nous-mêmes la semence jetée dans le monde, dans le terrain du monde. Loué sois-tu, Seigneur, par ton Saint-Esprit, tout-puissant, aide-nous à accomplir ta sainte volonté, pour ta gloire et au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Est-ce que quelqu'un veut prier ?